Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour à toutes et à tous. Non, il n'est pas contagieux. Nous parlons aujourd'hui du psoriasis, une maladie inflammatoire et chronique de la peau. Il se manifeste par l'apparition de plaques rouges en relief recouvertes de lamelles blanchâtres qui se détachent, des squames. Il occasionne souvent des démangeaisons, parfois des douleurs. Localisé sur les zones de frottement comme les coudes, les genoux ou le bas du dos, il peut aussi survenir sur le cuir chevelu, dans les conduits auditifs, sur le visage, la plante des pieds et même sur les muqueuses génitales. Son pic d'apparition se situe sur la tranche d'âge 20-40 ans. Plus rarement, il débute à l'enfance. Les origines de cette pathologie ne sont pas toutes connues. Pour l'heure, nous en discuterons avec nos invités, mais la composante génétique en fait partie. Chez un tiers des patients qui en sont atteints, on retrouve des antécédents familiaux. Entre poussée et période de rémission, le psoriasis peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie, isolement, discrimination, perte de confiance en soi. Vitamine D, corticoïdes, puvathérapie, biothérapie, les traitements peuvent considérablement améliorer la situation. On en parle. Nous sommes le 28 octobre, à la veille de la journée mondiale du psoriasis, l'occasion pour nous de mieux comprendre cette maladie grâce aux professionnels de santé qui nous accompagnent. Je vous les présente, le professeur Hervé Bachelèze. Bonjour professeur Bachelèze.
Bonjour.
Vous êtes professeur de dermatologie, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, expert international du psoriasis et président élu de la Société européenne de recherche dermatologique. Plus loin dans l'émission, nous recevrons Delphine de Vulder, atteinte de rhumatisme psoriasique et de psoriasis. Elle est aussi responsable de la vie associative au sein de l'association très active France Psoriasis. En seconde partie de ce rendez-vous, nous retrouverons le docteur Fatimata Keita, chef de clinique au service de dermatologie MST du CHU Donka en Guinée-Conakry. Et avant de se quitter, nous ferons aussi un bref point sur le premier baromètre recherche médicale en France avec Dominique Letourneau qui lui est président du directoire de la Fondation de l'Avenir.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Bachelèze, les mots prononcés par un expert comme vous auront certainement plus de poids. Le psoriasis est-il contagieux? Qu'on en finisse avec ça?
Alors la réponse est simple, c'est non. Le psoriasis n'est pas contagieux. Vous l'avez dit, il y a une composante héréditaire possible, mais qui n'est pas constante. Et en aucun cas, il ne s'agit d'une maladie transmissible d'un individu à un autre. Et on peut rajouter que la peau enflammée atteinte de psoriasis, elle est plutôt plus propre entre guillemets que la peau normale, car il y a des composants qui déclenchent l'inflammation qui ont aussi une activité antibactérienne. Donc quand on regarde ce qu'on appelle le microbiome, c'est-à-dire la composition de la flore cutanée d'une lésion de psoriasis, elle est plutôt plus désertique en bactéries que la peau normale. C'est dire qu'il n'y a aucun risque de transmission, en particulier d'espèces bactériennes.
Donc ça, c'est fait.
C'est fait.
Avec cette crise sanitaire, on s'est inquiété de certains traitements pour le psoriasis, notamment les immunodépresseurs, la biothérapie. On s'est demandé s'ils ne rendaient pas les patients plus vulnérables au Covid-19. Que pouvez-vous nous en dire?
Alors, il y a eu deux phases. D'abord, une première phase en mars où on ne connaissait pas les facteurs immunologiques qui rédigissent une bonne immunité contre le virus de la Covid-19, le SARS-CoV-2. On avait des éléments indicatifs et depuis quelques mois, le travail fantastique de différentes équipes dans le monde, il faut bien le dire, principalement d'équipes françaises à l'Institut des maladies génétiques, à l'Institut Imagine à Paris, ont montré que il y avait chez les malades qui vont développer des formes sévères de Covid-19 un déficit d'une voie d'inflammation ou de réponse immunitaire qu'on appelle l'interféron de type 1, qui joue un rôle dans le psoriasis, qui est plutôt augmentée dans le psoriasis. Et pour l'instant, les médicaments qu'on utilise dans le traitement du psoriasis touchent de façon marginale cette voie de défense du système immunitaire. Il faut garder donc une certaine prudence pour les malades qui reçoivent ces traitements immunosuppresseurs. Mais pour l'instant, le premier registre et les données de registre qui viennent d'être publiées, un registre international auquel nous avons participé, montrent que chez les malades qui reçoivent ces traitements immunosuppresseurs, le risque de Covid-19 sévère n'est pas plus important que dans la population générale.
Pas d'inquiétude démesurée,
précaution comme pour tout un chacun.
Nous écoutons Aïnatou, elle est au Burkina Faso.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonjour à Céline et à notre invité. Je m'appelle Aïnatou, je viens du Burkina, précisément de la ville de Banfora. Mes questions par rapport au psoriasis, c'est quelles sont les causes du psoriasis ? Du cuir chevelu surtout, et je voudrais savoir s'il y a des facteurs favorisant le psoriasis du cuir chevelu. Ensuite, quel est le traitement adéquat du psoriasis du cuir chevelu? Et enfin, s'il y a une autre maladie ou d'autres maladies avec laquelle on peut confondre le psoriasis du cuir chevelu. Merci.
Beaucoup de questions, professeur Bachelès, pour vous. Aïnatou, qui nous a également envoyé un message et nous a expliqué les problèmes qu'elle rencontrait au travail. Elle est dans le milieu hospitalier. Les problèmes qu'elle rencontre au travail et les problèmes qu'elle rencontre pour se coiffer, l'esthétique, très clairement. Comment peut-on... déjà, toutes ces questions sur le psoriasis du cuir chevelu, comment peut-on le traiter ?
Alors d'abord, l'atteinte du cuir chevelu, elle est très fréquente hein, dans le psoriasis. Elle est souvent inaugurale, elle débute volontiers la maladie. Voilà. Elle peut résumer la maladie pendant longtemps ou parfois pendant toute la durée du psoriasis. Alors je passe vite sur... On peut la confondre, oui, avec ce qu'on appelle la dermite séborique du cuir chevelu. En général, quand même, le vrai psoriasis du cuir chevelu, le diagnostic est relativement aisé. C'est le principal, on va dire, diagnostic différentiel, comme on l'appelle. Les causes, elles sont, je dirais, les mêmes que pour le psoriasis en général. Il y a une prédisposition génétique, on peut pas... Dans la plupart du temps, on peut pas identifier le ou les gènes responsables. C'est une génétique complexe, mais il y a une prédisposition génétique, même d'ailleurs quand il n'y a pas de cas familier dans la même famille. Et c'est l'interaction avec des facteurs d'environnement. Alors, c'est vrai que le psoriasis étant naturellement la source de démangeaisons, qui sont souvent intenses, notamment au niveau du cuir chevelu. Et la deuxième chose, c'est que la peau psoriasique est plus sensible aux frottements, aux grattages qui vont par un phénomène qu'on appelle le phénomène de Koebner augmenter l'inflammation et ses conséquences avec les pellicules, la desquamation que vous avez décrite et que Aïnatou a très bien décrite. Et effectivement, c'est très stigmatisant dans la vie quotidienne, parce qu'on a ces pellicules qui tombent sur le corps, on vous le fait souvent remarquer.
Et dans la vie professionnelle, cette vie professionnelle et même sociale plus largement.
Absolument. Donc, ce sont des zones qui sont pas si faciles à traiter. Cela dit, et c'est un message important, il y a maintenant des traitements qui sont adaptés à toute forme de psoriasis, y compris le psoriasis du cuir chevelu, qui est considéré comme une zone peut-être un peu plus difficile à traiter du fait même de ce facteur de traumatisme naturel. On se peigne, on se coiffe.
Oui, elle nous parle de défrisage,
voilà,
de tresse.
Absolument. Donc le traitement, il est là pour permettre aux personnes de toute culture, de toutes origines, de mener une vie la plus normale possible. Donc, et par exemple, les corticoïdes par voie locale, les corticoïdes forts sont un traitement
peut-être indiqué.
Donc il ne faut pas avoir peur, absolument.
J'ai une question vraiment purement esthétique, mais parce que ça compte aussi, et on l'a entendu avec le témoignage d'Aïnatou, pour se coiffer, peut-elle par exemple porter une perruque ou y a-t-il un risque de trop étouffer ce psoriasis, ou est-ce une option envisageable pour lui permettre d'aller travailler?
Le raisonnement du médecin, c'est de permettre que ce soit envisageable si la personne le désire. Voilà, c'est aussi simple que ça. On intègre ce désir de mener une vie normale. Il faut bien dire que dans la grande majorité des cas, heureusement, nous y parvenons. en participation avec justement les patients hein, qui sont à même de se traiter eux-mêmes. Et donc il faut, c'est l'occasion d'insister sur le fait que les patients doivent parler dans l'officine du médecin. C'est très important. Quelles sont les conséquences sur leur vie personnelle dans tous ces aspects
du psoriasis. Jusqu'à quel point elle est affectée. Et bien voilà. Là, nous allons avoir Victor qui va parler sur les ondes d'RFI. Victor, vous êtes à Cotonou. Bienvenue.
Oui, bonjour Céline. Bonjour docteur.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
À 31 ans, je souffre des maux de hanche, des douleurs articulaires et la faiblesse dans les jambes. Depuis un an, j'ai consulté un médecin généraliste qui m'a prescrit des médicaments en vain. Mais il n'a pas pu me dire la maladie dont il s'agit réellement. Il faut signaler aussi que je ne présente pas des plaques de peau. Ainsi, je voudrais savoir s'il peut s'agir de la psoriasis. Quelles sont les causes de cette maladie? Et comment peut-on la prévenir?
On a bien entendu vos questions, Victor. Alors bien évidemment, très difficile de faire un diagnostic comme ça au téléphone, mais on peut vous aiguiller. Professeur Bachelet, qu'en pensez-vous?
Alors c'est une situation fréquente, un rhumatisme en absence de toute lésion de psoriasis cutanée, peut-être un rhumatisme psoriasique. Je crois savoir que c'est là justement la question de Victor. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la grande majorité des cas, tout de même, dans l'histoire du rhumatisme psoriasique, c'est la peau avant les articulations.
Mais il peut t'arriver qu'il n'y ait pas d'atteinte cutanée aussi, dans de rares cas.
C'est vrai, dans environ, on va dire, 5 à 10% des cas, c'est l'inverse. Ce sont les articulations avant la peau. Alors quand même, assez souvent, les ongles sont atteints. S'il n'y a pas d'atteinte des ongles, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un rhumatisme psoriasique, mais c'est déjà un élément indicatif. Et puis surtout, c'est l'occasion d'inciter justement les patients en liaison avec leur généraliste, s'il y a le moindre doute, d'aller consulter un rhumatologue, de réaliser des radios, et le rhumatologue, sur la base de l'examen clinique et d'un certain nombre d'examens complémentaires dont les radiographies sont la base, pourra préciser s'il s'agit ou non d'un rhumatisme psoriasique.
Donc Victor, là, faut vraiment pousser les investigations, aller consulter, bien exposer les différents problème que vous rencontrez à votre médecin pour qu'il puisse de manière plus probante et certaine vous dire de quoi vous souffrez. Ok Victor, à très bientôt sur notre antenne. Merci, au revoir et bon courage à vous. Je voudrais revenir sur les rhumatismes psoriasiques. Vous l'avez dit, bien souvent on a d'abord cette atteinte cutanée. Au bout de combien de temps peuvent-ils apparaître après l'atteinte cutanée?
Alors à tout moment, il y a eu des suivis de cohortes dans différents pays et qui ont montré qu'on pouvait développer un rhumatisme psoriasique de façon extrêmement retardée, plusieurs années, voire dizaines d'années après le début de l'atteinte de la peau. Et c'est bien pour ça que tous les médecins, que ce soit les généralistes et les dermatologues, sont dans une position de sentinelle, les patients aussi, et qui n'hésitent pas à justement décrire des douleurs articulaires qui ne sont pas forcément du rhumatisme psoriasique. On peut avoir de la goutte, de l'arthrose, mais de rapporter ces douleurs et sur la base de l'examen clinique, d'examens complémentaires comme des radios, complétés par souvent par une consultation rhumatologique, pourra préciser s'il s'agit ou non d'un rhumatisme psoriasique. Donc toute douleur articulaire n'est pas forcément un rhumatisme psoriasique, il faut le préciser.
Mais toute douleur articulaire, lorsqu'on a déjà ce psoriasis cutané, doit quand même pousser à aller consulter assez rapidement.
Oui, surtout si elle survient le matin ou la nuit, si elle est insomniante, c'est ce qu'on appelle des douleurs inflammatoires, si des articulations sont gonflées. Oui, ce sont des signes effectivement qui doivent inciter à aller consulter sans délai.
Sans trop tarder. À venir dans Priorité Santé, le témoignage de Delphine Desvulders, elle est atteinte de psoriasis, de rhumatisme psoriasique justement aussi, et est responsable au sein de l'association France Psoriasis.
Non pas di go, coi pas di gusto di giotto, alma di Belém com fa, fala assim pra rupera. Boca calada, nona bata pincha. Boca calada, nona bata pincha. Nem se fugo catengo, no arroz na cocido. Nem se fugo catengo, no arroz na cocido. Cadeaos, songa no son possibi. Cadeaos, songa no son possibi. A nós gêmea tu mamá, songa no son possibi. A nós gêmea tu mamá, songa no son possibi. Suma peri vicilon. Assim que não afirma, babi assim que luta. Suma pere vicilon, assim que não afirma. Assim que não afirma, babi assim que luta.
Son titre interprété par Bande Gamboa. Le psoriasis, on en parle dans Priorité Santé. À mes côtés, le professeur Bachelès, dermatologue à Paris et expert international de cette maladie de la peau. Professeur Bachelès, on l'a vu, on l'a entendu, notamment avec Einatou, le psoriasis peut avoir des répercussions négatives très importantes dans la vie de ceux qui en souffrent. C'est une maladie qui est visible, surtout lorsqu'elle atteint les mains, le visage, pas toujours connue par tous. Il y a ces démangeaisons, ces douleurs, ces squames. Est-ce qu'un accompagnement psychologique peut être indiqué ?
Oui, tout ce qui peut soulager, apaiser la douleur principalement psychique, hein, morale d'ailleurs, que l'anxiété et la dépression font partie des impacts fréquents dans les formes notamment sévères de la maladie. Sévère, j'entends étendue de la maladie. C'est une maladie qui n'est pas dans la tête, qui est dans la peau, mais qui a des répercussions sur la sphère psychique. Et il peut être effectivement plus que conseillé, en plus du traitement qui s'adresse directement à l'inflammation de la peau, qui reste quand même la base du traitement du psoriasis, eh bien, il peut y avoir parfois la nécessité d'avoir un accompagnement psychologique, soit par une psychologue, soit parfois, c'est plus rare, par un soutien psychiatrique. Donc, tout ce qui peut apaiser la douleur morale est effectivement
bienvenu. Libérer la parole, peut-être salvateur, être accompagné et compris aussi. Nous accueillons Delphine Desvulder. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la vie associative au sein de l'association France Psoriasis et vous êtes vous-même atteinte de rhumatisme psoriasique et de psoriasis. Racontez-nous comment la maladie a débuté pour vous.
Alors pour moi, la maladie a débuté, j'avais 21 ans. Ça a commencé par un psoriasis cutané au niveau de la peau, localisé au niveau des jambes. Ça a duré quelques mois. Bon, en hiver, j'ai pu cacher avec les pantalons, je me suis pas trop inquiétée. Puis c'est parti pour revenir 5 ans plus tard en force, hein, puisque là j'ai été atteinte sur 80% du corps, ce qui m'a amenée à consulter un dermatologue, vu l'ampleur de cette poussée, qui m'a parlé de psoriasis, qui m'a commencé à me proposer un traitement par des crèmes, hein, ce qu'on a très souvent.
Oui, en première intention.
Voilà, en première intention, et vu voilà l'importance de cette poussée, on est passé assez rapidement à un traitement par des UV chez un dermatologue.
La pulvathérapie.
Exactement, j'ai eu de la pulvathérapie qui a bien fonctionné à ce moment-là, qui m'a permis d'avoir une belle rémission. Mais voilà, à l'époque, on ne m'a pas expliqué que le psoriasis était une maladie chronique, que ça allait revenir. Donc je l'ai appris au fur et à mesure, puisque les poussées sont revenues. On a fait plusieurs fois de la pulvathérapie qui fonctionnait, mais bien sûr, ce pso revenait régulièrement. Et malheureusement, ça a amené chez moi peut-être ce manque d'information et cette chronicité que je constatais bien malgré moi.
Vous êtes, en fait, vous, parfois senti découragé dans ce processus qui revenait sans cesse.
Exactement. Ne comprenant pas très bien ce que c'était cette maladie, effectivement, je me suis découragée, j'ai baissé les bras, comme on dit, et je suis sortie des parcours de soins pendant plusieurs années. Pendant plus de 10 ans. Malgré tout, au cours de ces années, j'ai voulu comprendre ce que j'avais. Donc j'ai commencé à m'informer via Internet. J'ai découvert l'association France Psoriasis, où j'ai pu avoir beaucoup d'informations via Internet.
Que vous a apporté votre rencontre avec l'association? Qu'est-ce que ça a changé?
Ce que ça a changé, c'était l'information qui était donnée aux patients comme moi, pour comprendre. Ça m'a permis de finir d'accepter cette maladie chronique, de relativiser un petit peu, parce que j'ai pu les rencontrer, rencontrer les bénévoles, rencontrer d'autres patients atteints comme moi de psoriasis, parfois pire que moi, d'autres plus, de manière plus légère. Mais ça m'a beaucoup apporté pour justement accepter cette maladie et de mieux vivre avec cette maladie chronique et visible. Comme ça a été dit auparavant, c'est pas toujours facile d'accepter ce corps qui se couvre de plaques en tant que patient, et aussi par rapport au jugement des autres, au regard des autres, c'est pas toujours facile. Donc effectivement, ça m'a apporté beaucoup à ce niveau-là.
Vous venez de parler du jugement, du regard des autres. Avec quel mot accueillez-vous ces nouveaux patients qui viennent vers l'association, puisque vous avez des responsabilités aujourd'hui au sein de cette association?
Tout à fait, je suis responsable de la vie associative de l'association. Déjà, on est là en tant qu'association pour les informer sur la maladie, que ce soit les patients mais aussi leurs proches, de les soutenir entre patients. Je dirais qu'on se comprend. Ça nous permet, voilà, d'échanger par rapport à nos difficultés, de se sentir moins seul, parce qu'on a cette sensation d'être très souvent seul dans notre maladie. Il faut rappeler quand même que le psoriasis, ça touche 2,4 millions de personnes en France.
125 millions dans le monde. Et 125 millions dans le monde.
Exactement, tout à fait. Donc c'est important de ne pas se sentir seul et de pouvoir être les soutenir, que ce soit par Internet, via les mails, ou pour nous, notre permanence téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Et on redonne le nom de l'association, c'est France Psoriasis. Je voudrais aussi préciser, vous y avez contribué, il y a cette application Ta Vie Pso. Elle est dédiée à l'accompagnement, à l'information des personnes atteintes de psoriasis. Il y a du coaching, il y a un rappel de médicaments, il y a un journal d'information. Véritablement, pour nos auditrices et nos auditeurs, ça peut aussi être un soutien supplémentaire. C'est l'application Ta Vie Pso. Merci Delphine de Vulder. Je rappelle que vous êtes à la fois patiente et responsable associative au sein de France Psoriasis. Professeur, merci. Professeur Bachelez, on l'a entendu, il y a cet abandon, ce découragement au cours du traitement. 60% des patients atteints de formes graves disent se sentir abandonnés par la médecine. Pourquoi? Le bât blesse quelque part.
Absolument. Alors, c'est un témoignage exemplaire, hein, puisque c'est quelqu'un qui a pris des responsabilités dans une association formidable, qui est d'ailleurs un partenaire essentiel notamment de la Société française de dermatologie, à travers le groupe de recherche sur le psoriasis de cette même société. Et je tiens à saluer effectivement le travail qu'il et elle font, qui est essentiel. C'est exemplaire, ce témoignage, parce qu'on voit bien qu'à un moment, lorsque on se heurte à un silence pour toutes sortes de raisons, on va chercher soi-même les informations de façon un petit peu erratique, parce qu'on ne connaît pas les canaux, les vecteurs d'information qui sont les plus appropriés, et on peut céder à un certain découragement. Et la deuxième raison, c'est lorsque effectivement on n'a pas immédiatement une écoute qui complète un traitement adéquat. Très bien raconté qu'elle avait une première amélioration très importante qui donne de l'espoir, espoir déçu par une rechute. Et le premier conseil, effectivement, lorsqu'on forme des jeunes médecins spécialistes du psoriasis, c'est de dresser le tableau possible, effectivement, de la maladie.
Des suites à venir.
Des suites, c'est-à-dire la rechute fait partie des risques. Et ce qui est important, c'est de donner la perspective aux patients que on est prêt à faire face à toutes les situations, y compris les situations de rechute, de façon à détendre l'atmosphère.
Oui, de absolument. Donner des perspectives à Falel Korka, en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour, Saline.
Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'RFI et dans Priorité Santé. Vous êtes au Sénégal, nous vous écoutons.
Ok, bonjour Céline. Oui. Et bonjour professeur Bartner.
Allez-y, bonjour. Racontez-nous tout de suite votre histoire.
Ok, donc voilà. Bref, je suis âgé de 42 ans bientôt, le 8 décembre. Au début, il y a 3 ans que je souffre des psoriasis. Au début, c'était des boutons rouges, des plaques de peau sur la main droite. C'était douloureux, j'ai dû prendre des aloe vera pour me soulager. Ça n'a pas marché. Et voilà, je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments. Ça s'est amélioré un peu. Mais un an plus tard, ces plaques sont revenues, mais cette fois, c'est la région palmaire, à la main gauche. Je suis retourné voir le médecin, il m'a prescrit une pommade d'aïbo vert et la crème mycoderme en vin. C'est à nouveau passé. Malgré cela, depuis ces journées, évolué par pousser et commencé à se généraliser. Je commençais à avoir des ganglions et des fièvres. Et aujourd'hui, par contre, j'en souffre des deux mains. C'est très douloureux. Je suis en arrêt maladie. Présentement, je suis des soins, des injections à prendre pour indiquer cette chose. Honnêtement, on ne m'a jamais dit qu'est-ce que c'était. J'ai poussé mes recherches sur Internet. Et j'ai entendu que c'est
du psoriasis. Vous voulez savoir si ce que vous présentez semble indiquer du psoriasis. Docteur Bachelès.
Alors, la réponse est évidemment difficile parce qu'il faudrait avoir effectivement une vraie consultation. C'est compatible avec un psoriasis, mais il y a d'autres causes effectivement de l'atteinte, notamment de la paume des mains. Donc, il faut effectivement s'assurer auprès du dermatologue qu'il s'agit bien d'un psoriasis. En plus, quelqu'un qui a un psoriasis peut avoir parfois une mycose, un eczéma. Donc, ça sont des choses qui arrivent. Donc, il y a l'étape, je dirais, du diagnostic. Et puis, une fois que le diagnostic est établi, si c'est du psoriasis, il y a ce qu'on appelle l'adéquation, c'est-à-dire est-ce que prescrire le traitement le plus approprié. Donc ça, c'est la deuxième étape, mais qui est conditionnée par la première. Il faut s'assurer que c'est bien du psoriasis. Donc n'hésitez pas à aller revoir votre dermatologue, à insister pour dire que voilà, les lésions rechutent malgré le traitement qui a été prescrit et correctement pris.
Est-ce qu'un médecin généraliste peut aussi prendre en charge du psoriasis?
Oui, alors c'est un partenaire important de la prise en charge des patients. Le suivi n'est pas uniquement entre les mains, évidemment, des spécialistes, même si, encore une fois, en général, dans les meilleurs des cas, il y a une complémentarité, il y a une alternance des visites, puisque pour autant, il y a certaines comorbidités, par exemple, qui sont plus, l'expertise du généraliste en lien, là encore, avec le dermatologue. Donc oui, c'est important que l'information circule entre le généraliste et le dermatologue.
Merci Falel Korka. Professeur Bachelès, l'un des éléments que n'a pas partagé avec nous à l'antenne Falel Korka, c'est qu'il a un bébé et qu'il s'inquiète de pouvoir lui transmettre le psoriasis, si c'est bien du psoriasis. On l'a dit, ce n'est pas contagieux, mais il existe le psoriasis des langes, par exemple, chez les nourrissons.
Oui, alors effectivement, il peut y avoir les circonstances dans lesquelles le diagnostic est un petit peu plus délicat pour le psoriasis, c'est notamment chez l'enfant et particulièrement chez le petit enfant et le nouveau-né. Donc oui, le psoriasis des langes existe, mais là encore, il y a des prises en charge avec des agents émollients simples. On déconseille les corticoïdes, a fortiori les corticoïdes forts, mais il y a des prises en charge adaptées. Donc là encore, les pédiatres, les dermatologues pédiatres, plus plus particulièrement engagés dans cette prise en charge sont là pour aider. Les compétences sont partagées. Et là aussi, il y a un dialogue entre les deux.
Et puis il y a l'érythème fessier aussi, tout simplement.
Absolument, hein, qui arrive souvent, ce qu'on appelle la dermite séborique du siège. Enfin,
donc,
bon,
ne pas hésiter
voilà,
à consulter
voilà,
encore,
donc,
encore une fois.
Voilà,
il faut pousser les portes et aller frapper aux portes. Nous poursuivons cette discussion avec le docteur Fatimata Keïta depuis la Guinée-Conakry.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Bonjour docteur Keïta.
Bonjour Céline.
Vous êtes chef de ZFE de clinique au service de dermatologie MST du CHU d'Anka à Conakry. J'ai cette première question. L'huile de Carapa Procera que l'on trouve chez vous, elle est connue pour ses vertus dermatologiques, est-elle effectivement intéressante dans le traitement du psoriasis?
Bonjour professeur Bachelet.
Bonjour.
Bon, généralement pour les patients qui n'ont pas les moyens pour se procurer des émollients par exemple, lui nous le recommandons, ça a un effet bénéfique et ça soulage bien les lésions de psoriasis.
Ah, donc vous confirmez?
Ah oui.
Donc ça c'est une piste, un traitement, un moyen intéressant pour soulager le psoriasis, mais j'imagine de forme légère ou modérée.
Légère.
Très bien. 2 à 3% de la population française, on l'a dit, est touchée par le psoriasis. De quel ordre serait la prévalence en Guinée-Conakry?
Bon, l'étude sur la prévalence du psoriasis en Guinée date de 2001 et elle était de 0,5%.
Mais pas d'étude depuis?
Pas d'études mais depuis. Il y a une étude récente, beaucoup plus récente que celle-là, qui a été effectuée en 2018, mais c'était une association psoriasis VIH.
Très bien. Et dans vos consultations, que constatez-vous? Rencontrez-vous souvent des patients atteints de cette pathologie?
Oui, on rencontre des cas de psoriasis en consultation. C'est assez fréquent et les gens y viennent pas aussi facilement.
Pourquoi? Pourquoi? Quels sont les freins ou les obstacles?
Alors, les freins à la prise en charge ou alors à la consultation, les freins sont multifactoriels. D'abord, on va parler du coût élevé du traitement pour la plupart des malades. L'accessibilité aussi des médicaments dans les pharmacies sans ordonnance, c'est-à-dire que les gens peuvent aller dans une pharmacie se procurer des médicaments, ou alors c'est la sœur ou le voisin qui dira « j'ai eu à utiliser tel topique pour tel dermatose, ça a marché, essaye aussi, ça pourrait marcher pour toi », sans pour autant savoir que c'est pas du tout la même chose.
Et ça, vous le déconseillez surtout, alors vous déconseillez cette pratique?
Nous déconseillons vraiment cette pratique parce que de manière générale, pour les profanes, toutes les dermatoses se ressemblent. Donc, toutes les dermatoses se ressemblent. On ne peut pas, par exemple, donner un antifongique qui est recommandé pour une dermatocystie, pour traiter un psoriasis, par exemple. Et le gros du problème, c'est le recours à la phytothérapie. C'est ça le gros du problème. Les gens qui souffrent du psoriasis dans nos contextes pensent souvent qu'on leur a jeté un mauvais sort. Et pour eux, la solution ne se trouve pas à l'hôpital, ne se trouve pas chez le dermatologue, mais plutôt chez le traduit praticien.
Et est-ce
donc
que...
ça, c'est vraiment le gros du problème que nous avons.
Et donc, ça pose des retards de prise en charge efficaces. Avec quelles conséquences ces retards de prise en charge?
Ça pose un problème de retard de prise en charge parce que là, pour la dernière étude dont je viens de vous parler, l'étude a montré un délai de consultation de 30 à 180 jours. 180 jours, c'est quand même énorme.
C'est énorme.
Ça fait 6 mois de délai depuis l'apparition des lésions à la première consultation.
Professeur Bachelet, constatez-vous, excusez-moi docteur Keïta, je voulais inviter le professeur Bachelet dans cette discussion avec nous. En France aussi, il y a ces retards parfois importants de consultation.
Absolument, surtout avec la démographie médical concernant certaines spécialités, dont la dermatologie dans certaines régions. Effectivement, l'accès au dermatologue est pas très simple. Et c'est une des multiples raisons, ça n'est pas la seule, au retard de la première consultation. Au-delà de la première consultation, il y a aussi le retard à la prescription d'un traitement adéquat pour telle ou telle forme de psoriasis. Chaque patient va être différent. Donc, par exemple, dans le cas de tout à l'heure,
de Falel Corcar,
où elle décrit qu'elle avait 80% de la surface corporelle atteinte, il faut pas retarder la prescription d'un traitement systémique.
Là, on a une forme sévère.
On a une forme sévère. Il faut donc soit une photothérapie, soit effectivement un traitement comme le méthotrexate ou d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Avoir vraiment une attitude proactive. C'est vrai des dermatologues, c'est vrai des généralistes et c'est vrai aussi des patients, car le témoignage du docteur Keita montre bien que les patients ont aussi leurs croyances, ont aussi leurs convictions et il faut parfois
tout le monde a sa part de responsabilité aussi. Docteur Keita, pouvez-vous décrire quels sont les symptômes du psoriasis pour les auditeurs qui sont là à l'écoute, pour qu'ils puissent justement se dire, bah tiens, peut-être que ça y ressemble, là je dois aller consulter.
Alors, la chance que nous avons en dermatologie, c'est que c'est plus du visuel. Et en ce qui concerne le psoriasis, nous sommes généralement face à deux types de lésions. Bon, on peut appeler ça bouton pour les profanes. On a de l'érythème.
Ça ressemble à quoi l'érythème?
L'érythème sur peau blanche, elle est rouge. Cependant, sur peau foncée, sur peau noire, on peut avoir des achromies. Tantôt, l'érythème, ça peut être plus foncé que la peau normale ou alors plus clair que la peau normale.
Et en relief, toujours en relief?
Toujours en relief avec des plaques de squame. Et lorsqu'on gratte ces plaques, il y a une poudre blanche qui se détache, qui tombe. Donc c'est comme ça, les SEMS, c'est comme ça, ça se présente. C'est une plaque rouge qui est là maintenant. Encore une fois de plus, sur peau noire, on a une achromie. Elle peut être.
Alors achromie, vous pouvez nous expliquer? Achromie.
Achromie, ça peut être plus une achromie, une dyschromie. Ça peut être la plaque peut être plus foncée, c'est-à-dire plus sombre que la peau normale, ou alors plus légère, moins foncée que la peau normale. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre chez le phototype foncé à cet érythème rouge, à cette tache rouge vive qu'on rencontre sur la peau blanche. Il faut pas s'attendre à ça dans tous les cas.
Voilà.
Parce que l'érythème sur peau noire n'est pas rouge.
Voilà, mais c'était important.
Que la peau noire, oui.
Voilà, c'était important que vous puissiez décrire pour que nos auditrices, nos auditeurs puissent véritablement eux aussi, dans un premier temps, visuellement se dire peut-être que ça y ressemble et les inviter à aller consulter. Est-ce que vous avez un message à faire entendre sur cette maladie?
Alors, le message à faire passer, c'est d'abord aux dermatologues, c'est de renforcer l'éducation thérapeutique des patients atteints des dermatoses chroniques de façon générale. Je pense que aussi nous avons une part de responsabilité. Parce que si nous ne disons pas, nous n'expliquons pas clairement aux malades qu'il s'agit d'une pathologie chronique qui évolue par poussée et rémission et qu'une nouvelle récidive n'est pas exclue, des fois je pense qu'après une première consultation, en cas de récidive, ils ont tendance à penser que le traitement n'a pas marché.
Et ils se découragent.
Et il faut savoir aussi, ils se découragent. Et il faut savoir aussi que c'est pas toujours facile pour nous en tant que dermatos, parce que nous ne sommes pas nombreux pour des millions d'habitants quand même.
C'est bien pour ça que je demandais tout à l'heure au professeur Bachelès, peut-on aussi aller voir un médecin généraliste?
Bon, ça c'est le message d'abord à faire passer aux dermatologues. Maintenant, aux médecins généralistes, c'est devant toute éruption faite d'érythème et de squame, en cas de doute, de référer au service de dermatologie ou demander un avis. Enfin, si c'est un médecin généraliste quand même qui a fait un peu de dermato, qui a fait un stage en dermato, le diagnostic peut être aisé. Mais encore une fois de plus, malgré que le diagnostic dans 90% des cas se fait facilement cliniquement, il faut savoir que dans certains cas, on a des doutes diagnostiques et il faut faire recours à la biopsie pour quelques rares cas. Sinon, dans la plupart on voit et on sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Et le message à faire passer concernant les patients, c'est de respecter tout rendez-vous du médecin avec ou sans amélioration de la dermatose. D'éviter l'automédication, d'apprendre à vivre avec les dermatoses chroniques et les dermatoses affichantes. Et la bonne nouvelle est qu'avec la création du DS dans le pays, on ose espérer avoir au moins un dermatologue par région dans les années à venir.
Une bonne nouvelle. On voulait aussi en entendre une. Merci, docteur Keïta. Le message a été très clair. Merci. Je rappelle que vous êtes chef de clinique au service de dermatologie MST du CHU Donka à Conakry. Merci à vous, professeur Bachelès, de nous avoir accompagné et éclairé tout au long de ce rendez-vous. Je rappelle que vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et expert international du psoriasis. Juste un mot sur les traitements du futur. On peut en espérer ?
De oui, alors il y a déjà un arsenal de traitements qui s'est renforcé au cours des 20 dernières années, comme
notamment depuis
dans,
le début des
oui, comme ça n'a probablement pas d'équivalent dans aucune autre maladie inflammatoire. Donc il y a déjà avec des traitements biologiques maintenant des petites molécules qui viennent compléter le méthotrexate, la cyclosporine, etc. Donc vraiment, c'est un message effectivement d'espoir. Et le dernier mot, c'est que les patients de l'un à l'autre sont différents. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision et la médecine personnalisée. Et ce sera effectivement d'essayer d'identifier des facteurs pour prescrire d'emblée le meilleur traitement pour chaque patient, un traitement ciblé. Voilà.
Merci, professeur Machinez.
Merci à vous.
Nous en...
Priorité santé sur RFI.
J'étais comme trop pressée. Nous faisons à présent un point sur la recherche en priorité santé avec la Fondation de l'Avenir, dont l'objet est le progrès médical. On vient d'en parler d'ailleurs à l'instant, quelque part. Elle présente son premier baromètre de recherche médicale en France pour évaluer les connaissances et les attentes sur la recherche à la fois du grand public et des médecins. Pour nous en dire plus, nous accueillons Dominique Letourneau. Bonjour Dominique Letourneau.
Bonjour à vous.
Vous êtes président du directoire de la Fondation de l'Avenir. En quelques mots, quelles sont les activités principales de la Fondation de l'Avenir ?
Alors, en quelques mots, c'est une fondation qui a 33 ans et qui finance tous les champs de la recherche médicale appliquée. En même temps, la séparation entre appliqué et fondamental était assez claire il y a 33 ans. Aujourd'hui, c'est itératif. Peut-être qu'on peut mettre en avant que nous pouvons conserver cette référence de recherche médicale appliquée parce que essentiellement, ce sont des équipes qui sont issues de CHU que nous finançons.
Quelles sont les informations essentielles qui ressortent de ce baromètre ? De recherche médicale.
La première information qui peut paraître présomptueuse, c'est de dire que le baromètre existe parce qu'il n'en existait pas.
C'est le premier, oui, effectivement.
C'est le premier. Et en fait, nous étions dans une réflexion dans le cadre du projet de loi de programmation de la recherche et on se disait que c'était intéressant d'avoir le point de vue à la fois du grand public et des médecins sur à la fois bien sûr la connaissance respective en matière de recherche médicale, la perception et les attentes. C'est pour cela qu'on a fait une enquête en janvier 2020.
Dont vous avez repoussé les résultats avec cette crise sanitaire.
Alors, on a fait deux choses. C'est-à-dire qu'au moment où on a pris connaissance des résultats et qu'on était prêt à les mettre à disposition de tout le monde, je n'en reviens pas sur la crise Covid, et on s'est dit qu'il y avait peut-être là quelque chose qui n'était pas forcément adapté. Et donc, on a fait une deuxième vague en termes d'enquête, et ce qui devient intéressant, puisque nous avons à la fois un temps zéro qui est l'enquête de janvier, et une première déjà évolution avec l'impact, entre guillemets, de la crise Covid, et qui permet déjà de mesurer quelques éléments intéressants.
Dans quelle mesure ces informations, ces éléments intéressants auront un impact auprès des médecins, donc, mais auprès du grand public, de la population générale ?
Alors, le premier élément intéressant... mais qu'on retrouve en façon générale, c'est que toute crise accélère le processus d'acculturation. Il y avait un écart extrêmement important entre ce que le grand public pouvait exprimer en matière de recherche médicale, y compris au niveau de la connaissance, par rapport aux médecins qui sont très très au clair, très au point, et on s'est aperçu que là, en l'espace de grosso modo 5 mois, 6 mois, on a eu vraiment une connaissance plus fine de la recherche médicale.
Quelle est la
Ça, c'est un premier élément. Ça montre aussi qu'il y a un déficit au préalable de l'information sur la recherche médicale, et il y a une vraie demande du grand public.
Parce que peut-être que l'information ne passait pas jusque-là, n'arrivait pas jusqu'au grand public aussi.
Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il faut réfléchir sur nos médias de diffusion, à la fois du côté des pouvoirs publics, à la fois du côté des supports, y compris comme les vôtres, y compris du côté d'acteurs comme nous, qui sont des acteurs qui doivent permettre, dans le bon sens du terme, la vulgarisation de l'information scientifique. Et là, on voit bien que la crise, plus 14 points, c'est énorme, hein, entre l'enquête de janvier et celle de fin août, début septembre, et on voit que là, il y a un impact Covid dans le sens positif du terme.
Quelle est la prochaine étape pour la Fondation de l'Avenir ?
Alors, c'est d'inscrire ce baromètre dans le paysage pour justement ne pas être uniquement dans une expression à intenter, mais de mesurer, année après année, les grandes évolutions sur ce que les, à la fois professionnels et la population, fait et ce qu'elle attend.
Merci Dominique Letourneau. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la Fondation de l'Avenir. Disclosure and Fatoumata Diawara avec Doua. Demain, nous parlons de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Toutes les 5 secondes dans le monde, une personne est touchée. La prévention et l'information peuvent vraiment changer ces chiffres. Je vous invite à prendre part à cette discussion au 00 33 1 84 22 75 75. Merci à l'équipe pour la préparation de l'émission. À Cetus Amaké, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurent Hérault. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Et puisque c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole, moins qu'à souhaiter aux autres en bon jounin. Excellente journée à l'écoute d'RFI.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.